Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande : nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé, que puis-je dire ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du haut du ciel vint une voix qui disait : je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient : c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. L'on lit l'Évangile, mais vous l'avez peut-être lu en préparant cette messe, on est un peu surpris de la réponse de Jésus. L'Évangile commence ainsi, des Grecs qui étaient montés à Jérusalem veulent voir Jésus et Jésus répond : l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Et comme souvent, le Seigneur nous désarçonne parce que à une question, il répond, mais de façon, il semblerait, complètement à côté. Et donc, il faut resituer ce texte de l'Évangile dans le contexte général. Où se situe-t-on lorsque l'on lit ce passage ? Ce passage vient après le passage des rameaux, où Jésus rentre dans Jérusalem, acclamé par tous, glorifié par tous. Et on comprend donc que des Grecs qui étaient à Jérusalem, des Grecs donc qui habitaient de la région certainement de Bethsaïde, qui était une région assez hellénisée, qui connaissait Philippe, qui est aussi le plus grec parmi les apôtres, et donc des Grecs qui, face à cet accueil triomphal, au fond se demandaient : mais qui est ce Jésus ? On veut aussi, nous aussi, le connaître. Il attire tout le monde, il a la faveur de tous. Et au fond, à travers cette rencontre entre les Grecs et Jésus, c'est l'invitation tout simplement à se recentrer. Jésus dit : attention, ne vous trompez pas. Celui que vous venez voir, eh bien, il sera conduit jusqu'à la passion. Ne vous trompez pas. Lorsque on cherche Jésus, lorsque l'on veut voir Jésus, on le voit beaucoup plus dans sa passion et sa résurrection qu'au moment de l'acclamation des rameaux. Et c'est là, au fond, où il invite chacun à grandir spirituellement. Il y a toujours cette tentation en nous d'un Jésus fort, d'une église forte, de quelque chose de triomphant, de quelque chose qui s'imposerait à tous. Et non, le Seigneur nous conduit plus loin. Il dit : vous voulez connaître qui est le Christ ? Eh bien, voilà ce que je vous dis. Eh bien, c'est comme le blé qui est tombé en terre et s'il ne meurt pas, eh bien, il ne porte pas de fruits. Et si vous voulez me connaître, eh bien, suivez-moi. Eh bien, suivez-moi jusqu'à la passion. Celui qui est attaché à sa vie, eh bien, la perdra. Celui qui donne sa vie à cause de moi la trouvera. On voit donc que le Seigneur conduit ces Grecs, c'est-à-dire ces païens, hein, conduit ces Grecs et donc conduit aussi toute l'humanité, mais aussi tout le peuple juif, à le reconnaître, non pas là où on l'attendrait, mais dans un autre lieu, dans sa passion glorieuse. On voit donc que ce passage se situe après les rameaux et remplace dans Saint Jean le moment de l'agonie. Il n'y a pas, alors que dans les trois autres évangiles où on relate l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, dans Saint Jean, ce passage n'est pas relaté. Et on peut très bien dire que ce chapitre 12e tient lieu et place de l'agonie. Il y a un combat intérieur dans l'humanité de Jésus pour accueillir la volonté du Père. Hein, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Il y a un combat dans son humanité pour accueillir la volonté de Dieu. Agonie, ça vient du grec qui veut dire combat, le combat spirituel. Et donc, à travers cette lecture du cinquième dimanche de carême, on voit bien qu'on rentre directement de plein pied dans la passion. Pour nous aussi, ce combat, il existe, d'accueillir la volonté de Dieu telle qu'elle se présente, même si ce n'est pas la manière que nous aurions choisi, nous aurions vu d'autres chemins, nous aurions préféré d'autres circonstances. Mais j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui disait « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. » Et oui, accueillir, au fond, cette suite du Christ dans les circonstances particulières de notre vie que nous n'aurions pas choisies ou nous aurions souhaité d'autres, eh bien, c'est, au fond, rentrer dans cette attitude de service. C'est rentrer dans ce détachement intérieur. C'est accueillir aussi la volonté de Dieu qui nous poussera parfois à crucifier notre propre volonté. On aurait préféré d'autres circonstances, circonstances familiales, circonstances de santé, circonstances économiques, que sais-je, toutes les circonstances de notre vie. On aurait rêvé, entre guillemets, à un monde meilleur, ou alors on dit le bonheur est ailleurs que dans les circonstances où je suis. Et le Seigneur nous dit, voilà, c'est là l'heure où Dieu aussi va se manifester. Dans cette circonstance particulière, tu seras appelé aussi à donner ta vie. Mais on voit bien qu'il y a un combat intérieur en nous, on voit bien qu'il y a comme un affrontement entre notre volonté propre, notre volonté de dire, ben non, je veux que les circonstances soient comme moi je veux et comme je l'ai dicté, et on voit que la réalité nous rejoint et souvent nous dépasse. Alors ce combat intérieur, cette agonie, on peut dire on vit des petites agonies parfois au cours d'une vie, en attendant la grande agonie, le grand combat intérieur à la fin de notre vie. Mais on voit bien qu'on a quelque chose à livrer, on voit qu'on a à aller plus loin que notre propre désir pour découvrir cette volonté de Dieu qui nous fera passer de la mort à la vie. Parce qu'il s'agit de ça. Le Seigneur annonce, et se termine l'évangile comme ça, de quel genre de mort il allait mourir. Au fond, il y a cette logique évangélique qui fait que petit à petit on est conduit d'une certaine manière de voir notre vie à laquelle on doit mourir pour arriver à la manière dont le Seigneur veut nous conduire. Vous savez que dans les exercices de Saint Ignace, que l'on fait lorsqu'on a un choix spirituel à faire, les grands exercices, à un moment donné, Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, dit « Pour connaître la volonté de Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, il faut offrir l'Isaac du cœur », faisant évidemment allusion au sacrifice que Abraham a été invité à faire. Il faut offrir l'Isaac du cœur. Isaac, c'était le fils de la promesse, le fils impossible d'une certaine manière. C'était vraiment celui qui était le signe de l'amour de Dieu, et Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Et il dit, Saint Ignace, c'est parce qu'on accueille cette invitation du Seigneur à offrir l'Isaac du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'Isaac du cœur? C'est ce qui nous tient le plus à cœur, ce que on veut vraiment, ce qui nous paraît absolument indispensable, ce qui nous paraît, eh bien, ça, c'est à nous de l'offrir, de le déposer aux pieds du Seigneur pour pouvoir ensuite discerner paisiblement quelle est sa volonté. Mais on voit bien que si on n'offre pas cet Isaac du cœur, on ne rentre pas dans une attitude de discernement. On est encore attaché à notre manière de voir, à nos manières de penser, et on sait bien que les chemins du Seigneur ne sont pas nos chemins, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, cette invitation à suivre le Christ, cette invitation au fond à une plus grande liberté. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Quelle est ta volonté? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je dois renoncer et qui est bon? Parce que renoncer au mal, bon, c'est un peu évident, même si c'est pas facile à accomplir. Mais là, on parle de renoncer à quelque chose de bon, à quelque chose de positif, à quelque chose aussi qui contribue à l'amour de Dieu et auquel il faut aussi renoncer pour aller plus loin. C'est ça qui est difficile. Choisir entre le mal et le bien, je dis pas que c'est toujours simple, parce qu'il y a aussi une complicité en nous avec le mal, mais choisir entre le bien et le bien, et entre deux biens, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que c'est ça le vrai discernement. C'est pas choisir entre le mal et le bien, mais c'est choisir entre le bien et le meilleur. Et donc, à travers cette invitation que le Seigneur nous fait, au fond, à nous détacher intérieurement de ce à quoi on serait attaché de façon crispée, vous voyez, nos crispations intérieures, mais ça c'est absolument indispensable. Si j'ai pas telle si j'ai pas telle chose, si j'ai pas telle autre, si eh bien c'est comme si ma vie s'écroulait. Et puis on voit bien que parfois le Seigneur nous en dépouille, et ce n'est pas pourtant autant que notre vie s'écroule. Et donc au fond, rentrer dans cette dimension de la passion, c'est rentrer dans cette disponibilité. Et on voit bien que le Seigneur lui-même, dans son humanité, a été bouleversé, a eu son combat. « Père, délivre-moi de cette heure », hein, dans les autres évangiles, « éloigne de moi ce calice », parce qu'il y a un vrai combat intérieur d'accueillir cette volonté du Père. Et on voit, et c'est le seul moment dans l'évangile de Saint Jean où la voix du Père se fait entendre, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Et donc, on voit que, au fond, le Seigneur, à travers ça, dans Saint Jean, c'est la voix du Père. Dans les autres évangiles, c'est l'ange, vous vous rappelez, l'ange de l'agonie qui vient soutenir Jésus pour accueillir la volonté du Père dans son humanité. Mais on voit qu'on a besoin aussi d'être soutenu dans cette dimension de combat spirituel. Ça ne va pas de soi, et chacun d'entre nous, on a des moments de difficulté, on a des moments de... parfois on voit où est la volonté de Dieu, mais on sent une résistance en nous. Alors, qu'est-ce qui peut nous soutenir, justement, pour accueillir cette volonté de Dieu? Ben, tout simplement, c'est les armes spirituelles que nous donne le Seigneur pour le combat spirituel, la parole de Dieu, les sacrements, l'Église, la communion des saints, la prière. Voilà aussi ce qui nous soutient pour accueillir cette volonté du Seigneur. Alors, c'est beau de voir, au fond, que le Seigneur nous invite et invite ces Grecs. Hein, ces Grecs, c'est pas pour rien que c'est des Grecs, c'est toute la sagesse de ce monde, hein, c'est la sagesse grecque, c'est l'invite à passer d'une dimension simplement humaine à ce qu'est la volonté de Dieu, et au fond une volonté de vie, puisqu'il est appelé aussi non seulement à passer par la passion et la mort, mais pour arriver à la résurrection. Alors, on va demander, frères et sœurs bien-aimés, on va demander vraiment ce renouvellement du regard, cette attitude de foi, parce que c'est ça, c'est une vraie attitude de foi que nous avons à avoir plutôt intérieurement pour accueillir cette volonté de Dieu, pour renoncer à ce qui nous paraissait peut-être tout à fait essentiel, pour arriver à quelque chose de plus grand. Et le Seigneur dit, ben, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est vrai que dans ce geste que le Seigneur pose d'offrir sa propre vie, eh bien, nous sommes attirés parce que nous reconnaissons là un amour qui est plus grand que n'importe quel amour simplement humain. Nous reconnaissons là un amour désintéressé, un amour, l'amour de Dieu lui-même qui se manifeste en Jésus, en sa passion. Alors c'est beau de voir que, et c'est la première lecture qui le rappelle dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, cette alliance à laquelle nous sommes appelés, cette alliance, eh bien, le Seigneur l'a gravée au fond de notre être, hein, il nous a renouvelé intérieurement pour pouvoir répondre. On n'est pas sans rien, c'est-à-dire, on n'est pas sans une capacité de répondre à la volonté de Dieu. Donc il faut rechercher en nous-mêmes, puiser à l'intérieur de nous-mêmes, non seulement par le baptême qui nous a été donné, mais aussi dans la lumière de la conscience, quand elle est bien éclairée, d'avoir vraiment cette, de puiser en nous-mêmes cette vraie désir d'accomplir la volonté du Seigneur. Amen.